Chers AMG, le 2 février dernier, il y a eu un petit événement, et même peut-être bien un grand événement, concernant un confrère qui s'appelle Denis Robert. Le 2 février, la Cour de cassation a blanchi entièrement Denis Robert de toutes les condamnations dont il faisait, dont il avait fait l'objet. En saluant la qualité de son travail, la pertinence de ses enquêtes, l'intérêt général auquel il s'est voué, etc., etc. C'est une victoire formidable pour Denis Robert, bien évidemment. Après 10 années de lutte acharnée contre la chambre de compensation Clearstream, après une soixantaine de procès, il s'est pris une soixantaine de procès dans le museau de Denis Robert, c'est évidemment pour lui un soulagement, on peut l'imaginer, une victoire, etc., etc. Mais c'est aussi quelque chose qui rejaillit sur toute la profession de journaliste, une des professions les plus détestées en France. Hein, oui, ça vient dans l'ordre des professions les plus détestées. Le journalisme est bien situé. Et il y a des raisons à ça, des bonnes et de très mauvaises aussi. En tout cas, le travail de Denis Robert depuis des années, cette espèce de petit David contre un énorme Goliath, ce Don Quichotte avec son épée en bois qui arrive à cette victoire, mérite d'être salué et mérite de faire exemple pour d'autres journalistes ou des jeunes qui ont envie encore de faire ce métier. Et ils ont bien raison d'avoir envie de le faire, à condition de choisir leurs exemples. Et puis aussi, à tous ceux qui n'ont pas eu l'énergie, peut-être le talent de Denis Robert, qui n'ont pas toujours eu autour d'eux les soutiens, les amis, etc., etc., et qui ont jeté l'éponge à un moment ou un autre, et puis qui sont enfoncés dans les marécages et dont on n'a plus entendu parler, alors qu'ils rêvaient, bien évidemment, eux aussi, de lutter contre le mal, contre l'injustice, contre les inégalités, ce qui est la plus belle lutte à laquelle on peut vouer son existence. Vous avez compris qu'on va passer 7 heures avec Denis Robert. On le recevra aussi demain, mais là, on va revenir en arrière, parce qu'on l'avait rencontré une fois, on avait fait un sujet avec François Ruffin en 2007, et puis à nouveau, on avait parlé de lui en 2008. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut Daniel, c'est François. Je t'appelle là, je suis dans ma journée de livraison, je traîne un diable avec des kilos de tchoufakir dessus, et pareil dans mon sac à dos, et là, dans les couloirs du métro, je tombe sur quoi ? Sur des grandes affiches du Point avec Strauss-Kahn en photo. DSK, de quoi a-t-il peur ? De quoi a-t-il peur ? Ben, j'ai la réponse, de nous, bien sûr. Parce que c'est ça que je viens justement livrer par milliers là, aujourd'hui à Paris, j'en ai 2000, comme je te disais, sur mon diable. C'est des tchoufakir intitulés DSK, pourquoi on n'en veut pas ? De quoi DSK a-t-il peur, hein? De quoi DSK a-t-il peur? Eh bien, il a peur de la vérité, pardi. Il a peur qu'on lui rappelle comment il a fondé le cercle d'industrie, comment il a reçu de l'argent de l'AMNEF, de ELF, de Alcatel, de EDF. Qu'on lui rappelle son bilan au ministère de l'économie, hein, puisque même les Échos l'appelaient le plus grand privatiseur avec France Télécom, les caisses d'épargne et les banques publiques. Tout ça, il y a beau y avoir marqué sur les affiches là du Point de quoi DSK a-t-il peur. Tout ça, ça sera pas inscrit dans le Point, ça sera pas marqué dans le Point. C'est pas davantage entendu ce matin sur France Inter. Toute une matinée à se demander s'il viendra ou pas, si Anne Sinclair préfère Washington ou l'Elysée. De quoi DSK a-t-il peur? Eh ben, je te disais, il a peur de nous tous, bien sûr. L'oligarchie des médias et du MEDEF s'est unie pour l'imposer comme candidat de la gauche. Mais tous ensemble, leur stratégie, on va la mettre en échec. Puisque la radio nous délivre une information à sens unique, des salles des profs au Conseil Général des Bouches-du-Rhône, ben on va diffuser notre contre-information. Donc voilà, tu peux, Daniel, et vous pouvez tous commander votre contre-propagande sur le site www.fakirpresse.info, www.fakirpresse.info, Et puis, bah voilà, ça sera une étape, juste une étape, mais à la fin, c'est nous qu'on va gagner.
Salut les AMG. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en écoutant les infos ce matin, j'ai envie de faire des maths. J'ai entendu que le petit père Moubarak était certainement parti du pouvoir avec 60 milliards de dollars en poche. Et même si on prend les estimations les plus indulgentes, cela s'élèverait à au moins 30 milliards de dollars. Somme qui, selon les observateurs, correspondrait au règlement de la faim dans le monde. Une autre info, le bénéfice de Total en 2010 s'élèverait à 10 milliards d'euros. Alors j'ai sorti ma calculatrice, je me suis rendu compte que cela représentait une année de SMIC pour 700 000 personnes. Ou alors 1000 euros de prime aux 10 millions de personnes ayant un revenu égal ou inférieur au SMIC. C'est pas mal quand même. Il n'y a pas qu'en Égypte ou en Tunisie qu'on marche sur la tête hein, dans ce monde complètement pourri d'injustice. Les Français feraient bien aussi de descendre sur la place de la Concorde pour faire la révolution. On pourrait appeler ça la révolution des calculettes. C'était Gilles de Normandie.
Corruption en Égypte, corruption. Tiens, je me suis amusé à calculer ce que gagnait Chirac au Conseil constitutionnel. 144 000 euros l'année dernière. 144 000 euros, 2618 euros de l'heure, il est payé. Il y est allé 11 fois. Je me suis basé sur 5 heures de travail à chaque fois qu'il y va. De toute façon, il doit pioncer à peu près le reste de la journée. Hein, corruption, vous avez dit corruption en Égypte. Oui, oui, en Égypte. La corruption légale organisée en France. Et si c'était que ça?
Bonjour aux AMG Auvergnat. Après avoir pris de la hauteur, nous allons discuter de politique locale. Jeudi, à Clermont-Ferrand, au Baroque Café, à 18h. À jeudi.
Cet après-midi, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que j'ai appris la remise en semi-liberté de Yann Marcouillan. Ce soir, c'est avec dégoût que j'apprends que le parquet fait appel de cette décision, suspendant de fait cette semi-liberté. C'était si prévisible de leur part. Vous avez supprimé la peine de mort, mais vous tuez aujourd'hui de Morlande toutes celles et tous ceux qui nous sont chers, sans aucun remords, en toute impunité. Je ne sais plus qui disait, quand la liberté devient un fantôme et que l'égalité est décrétée une chimère, il reste aux humains la pratique de la fraternité. Alors fraternité à toutes celles et à tous ceux qui demeurent en Bastille dans notre beau pays. À bas les murs, à bas toutes les prisons. Johan de Perros-Guirec.
Merci pour ces messages encore une fois. Donc, on retrouve Denis Robert. Le 14 juin 2007, on avait diffusé ce reportage avec François Ruffin et Denis Robert, voleur de poules, voleur de foule. Est-ce que vous pouvez faire la différence entre un voleur de poules et un voleur de foule? Une journée dans la vie de Denis Robert. Ça, c'était 14 juin 2007. Mais on se souvient du 13 juin 2008, où Denis Robert, complètement à bout, avait décidé de raccrocher, de jeter l'éponge. Évidemment, aujourd'hui, c'est tout différent puisqu'il vient de gagner. Mais écoutez-le ce jour-là.
Ce texte est ma dernière intervention publique à propos de Clearstream. J'ai pris la décision de ne plus intervenir sur ce sujet, sur Internet, dans les journaux, à la radio, à la télévision, et donc de refuser toute interview liée à la chambre de compensation luxembourgeoise. Cette décision est douloureuse mais réfléchie. Je la prends après ma lourde et incroyable condamnation en diffamation pour un montant de 12 500 euros par le tribunal de Bordeaux, suite à des propos vieux de 2 ans et pas vraiment méchants sur le fonctionnement de cette multinationale qui officie dans plus de 100 pays, dont une quarantaine de paradis fiscaux. Cette condamnation pour laquelle j'ai fait appel intervient le jour de la dernière audience civile du tribunal de Luxembourg, où Clearstream me réclame 100 000 euros en réparation de 421 exemplaires de Clearstream L'Enquête vendu au Grand-Duché de Luxembourg, alors que j'en ai vendu 20 000 en France. Elle intervient aussi le jour où le parquet de Paris demande, dans son réquisitoire supplétif, mon renvoi en correctionnel pour recel d'abus de confiance et recel de vol de documents bancaires, en déformant d'une manière particulièrement malhonnête la réalité de mes enquêtes. Je jette l'éponge. C'est une victoire de Clearstream, de ses avocats, de ses juristes, de ses dirigeants, des banquiers de son conseil d'administration. C'est surtout une victoire de la censure. En écrivant Révélation ou La Boîte Noire, aux éditions des Arènes avec Laurent Beccaria, ou en réalisant avec Pascal Laurent et Paul Morera de Canal+, Les Dissimulateurs ou l'affaire Clearstream racontée à un ouvrier de chez Déhou, je ne pensais pas en arriver à cette extrémité, à ce chaos. Je n'imaginais pas subir ce harcèlement et cette entreprise de déstabilisation. Je suis entré dans un cercle vicieux. Plus Clearstream m'attaque, plus je me défends. Et plus je me défends, plus je prends des risques. Et plus je suis taxé d'obsessionnel ou d'autres qualificatifs qui ne me correspondent pas du tout. Je me suis battu pendant 20 ans pour la construction d'une justice européenne. J'ai toujours écrit pour informer l'opinion et le public de l'intégration croissante du crime organisé dans les circuits financiers et les processus de décision de nos sociétés mondialisées. Depuis mon travail à Libération, à la rédaction de l'Appel de Genève, ou par mes autres livres et mes autres films, j'ai essayé d'informer le public de ce qui se passait dans les coulisses du pouvoir et de la finance clandestine. Mais la partie est devenue trop dure et trop inégale. J'ai passé des centaines d'heures à filmer des témoins, à recouper des informations, à éplucher des listings de comptes, à forcer les barrages des secrétaires et des attachés de presse, à envoyer des lettres recommandées, à questionner les banquiers ou les PDG. J'ai toujours évité les compromissions. Quand beaucoup de mes détracteurs, parmi les journalistes, ne connaissent du travail d'investigation que les rendez-vous avec les commissaires des RG, de la DST ou avec les avocats. J'ai réalisé une enquête de première main, avec des dizaines de témoins différents. C'est 8 ans de ma vie. Nous avons remporté de belles victoires, repoussé plusieurs dizaines d'assauts de banques russes, luxembourgeoises ou de Clearstream devant des tribunaux français, belges, canadiens, suisses ou même à Gibraltar. Mon blog est surveillé. Chaque jour, le chargé de communication de la firme s'y connecte et fait son compte-rendu aux avocats, aux juristes. Ce dernier message est d'abord pour eux. Voilà, maintenant vous allez gagner du temps, plus la peine de se connecter tous les jours. C'est la dernière fois que vous aurez à lire mes petites réflexions. Comment dites-vous déjà, obsédé, falsificateur, conspirationniste, entendre et lire ces mensonges à longueur d'assignation a fini par me lasser. Vous voulez me détruire et me ruiner. Vous vous servez de tout ce qui traîne pour me faire une sale réputation. Vous y parviendrez peut-être ou peut-être pas. Vous vouliez que je me taise, je me tais. À tous ceux qui m'ont accompagné dans cette enquête, aux centaines de journalistes qui ont envoyé un message ou leur carte de presse en soutien, aux magistrats spécialisés qui ont écrit des attestations en ma faveur, aux députés français et européens qui ont soutenu ce travail, aux 300 000 internautes qui ont suivi ce blog, au comité de soutien qui s'est formé pour m'aider et payer mes frais de justice, je dis merci, je dis aussi continuer. De nombreux procès restent en suspens et une commission d'enquête parlementaire européenne est toujours possible. Pour ce qui est de ma défense, je vous invite à régulièrement jeter un œil sur le blog de soutien. Je dis tout ça sans amertume. Simplement, à un moment donné, le monde a glissé autour de moi et ce qui était possible encore il y a quelques années, il n'est plus. Voilà. J'en ai fini, mon petit camarade.
Quand une société ou un secteur entier passe sous le contrôle des financiers, il est mort. Parce qu'ils vont faire de la finance. C'est-à-dire qu'ils vont plus...
Ça, je comprends.
Mais eh bien, ils vont fermer une usine, même si elle est rentable. Ils vont fermer une usine parce que, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des titres que d'acheter des machines.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais ?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Moi, j'ai écrit un slam, ça s'appelle « Voleurs de foule ». La justice, elle fonctionne pour gauler les voleurs de poule, jamais les voleurs de foule. Et ici, on est dans des boîtes qui... C'est des voleurs de foule.
Leur vraie peur n'est pas que le système s'arrête. Ils sont convaincus que le système va monter au ciel. Que l'écrasement des uns par les autres va continuer de façon illimitée et exponentielle. Bon, folie ou pas humaine ou pas folie humaine, mais leur problème, c'est de le faire secrètement. Dès lors que c'est public, ils ne peuvent plus. Le jour où les gens font la relation directe entre leur situation précaire et la finance internationale, ce jour-là, la finance internationale ne fait plus le poids, n'est plus crédible.
Le combat des juges contre le crime financier, c'est un peu la course du mammouth contre le léopard. Quand le mammouth judiciaire trouve la cache d'un léopard prédateur financier, le léopard a déjà changé 3 fois de planque et le mammouth n'y arrivera jamais.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Denis Robert, voleur de poule, voleur de foule. Flight number 2, arriving from...
Les avis d'huissier, ils sont... J'en ai une partie là, et l'autre partie, les plus récents, sont dans le tiroir. Voilà. Cour d'appel de Paris... Cour supérieure de justice du Luxembourg, TGI de Paris. Ça, c'est le truc de la cour de casse qui est tombé. Ça, c'est une facture d'huissier. Ça, c'est le truc du mois écoulé, on va dire, de 2 mois, peut-être.
Un tiroir, c'est 2 mois de procédure.
Bah, celui-là, ouais. Là, ces 2 derniers mois, c'est tombé assez régulièrement, quoi. Enfin, moi, j'étais obsédé par l'idée de comment rendre compte de cette censure. Et donc... L'idée, c'était de faire un bureau. L'idéal eût été de prendre ce bureau-là, qui est mon bureau, de mettre dessus le fruit de ces 5 années d'enquête avec tous mes documents, avec un ordinateur, et derrière ce bureau, d'édifier un mur qui fasse 6 mètres de haut au moins. Je tapissais le mur d'avis d'huissier, de lettres commandées, et j'ai de quoi en faire sur 1,50 m de le monter à 6 mètres, tellement il y en a. Pour montrer l'écrasement et la difficulté quand tu travailles sur ces sujets-là, comment on essaie de te faire taire et de te faire plier, la pression des procès. Par exemple, les Russes de l'Amenhotep, quand ils m'ont attaqué, comme ils m'ont attaqué dans 7 pays, et que j'ai 2 films et 2 livres, il y a 28 procédures. Donc 28 fois, tous les 3 mois, pendant 5 ans, j'ai eu des avis d'huissier de l'Amenhotep. À côté de ça, bon, il y a Clearstream, il y a tous les procès que me fait Clearstream en France, en Belgique, au Luxembourg, il y a toutes les plaintes en diffamation qui ont été déposées contre moi, et puis il y a tous les procès que m'ont fait Fortis, et la Banque Générale de Luxembourg. Et puis, il y a l'État luxembourgeois qui est finalement, si tu prends tous les adversaires que j'ai aujourd'hui, avec Clearstream, c'est l'État luxembourgeois qui est le plus vindicatif à mon égard, et le plus violent et le plus agressif.
Et le mur, ce mur de 6 mètres de haut, ce mur qu'on ne peut pas franchir, couvert d'avis d'huissier et de procédures et tout ça, c'est aussi le mur contre lequel tu te heurtes, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est pour montrer aux gens, parce que ce n'est pas le tout de le dire. Quand tu vois les lettres, quand tu vois la quantité de choses et tout, tu te rends compte de ce que c'est qu'être journaliste aujourd'hui dans ce pays, quoi.
Qu'est-ce que vous ne devez pas comprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous allons vous dire pour vous distraire, pour vous détourner de l'essentiel, pour vous éloigner des manettes de votre propre destinée? Qu'est-ce que nous avons encore trouvé pour appliquer notre politique? La politique au sens où l'entendait Paul Valéry. La politique, disait-il, est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs propres affaires. Eh ouais, c'est ça notre boulot. Bien sûr, vous ne trouverez personne pour vous dire ce que je vous dis là, aucun journaliste en tout cas. Et pourquoi? Bah parce que les journalistes sont de braves gens, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils s'appliquent, il ne faut pas leur en vouloir. Et puis la plupart du temps, ils n'en savent rien. Ils vous parlent de choses qu'ils ont lues. Ne croyez pas qu'il y a un complot, une grande usine quelque part, sous la terre, où l'on fabriquerait de la désinformation. L'usine a désinformé, peuplée par les bourreurs de mou. Bien sûr que non, pas besoin. Ça, c'était bon au temps de Staline ou au temps de notre ministère de l'information, par exemple. Non, non. Aujourd'hui... Plus la peine, tout ça est parfaitement intériorisé, le dressage est réussi et on pense ce qu'il faut penser, on dit ce qu'il faut dire, on fait ce qu'il faut faire comme tout le monde, on pense, on dit, on fait comme tout le monde. Et mais penser quoi d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait penser d'autre? Ben voilà un gars qui pense autrement. Denis Robert est une exception dans cette profession. Il y en a d'autres quand même. Il faudrait qu'on en parle d'ailleurs un jour des exceptions dans cette profession. Il a fait un pas de côté il y a déjà pas mal de temps. Et lui tout seul, ou presque, il a essayé de s'attaquer à l'essentiel. Il a essayé d'aller au cœur même du système actuel. C'est-à-dire un mot pour ce qui le concerne. Clearstream. Qu'est-ce que c'est que Clearstream? Ben, on va essayer de comprendre au cours de cette heure, à travers le combat de cet homme quasiment seul, derrière ces piles d'exploits d'huissiers et de commandements de toutes sortes et de convocations de toutes sortes, cet homme qui se bat et qui a fini par émouvoir un petit peu. C'est pas la seule raison de cette heure que nous passons ensemble. L'important pour nous, c'est d'ici à 16 heures, de parvenir à faire la différence entre les voleurs de poules et des voleurs de foule.
On a beaucoup chanté les courageux, les vrais atouts qui marchent le front haut vers les dangers sans trembler d'un cheveu. Fiers ces gaillards à l'ombre d'un drapeau. On n'a jamais chanté tous les peureux, les toujours prêts à se faire la valise. Alors chantons, ne soyons plus honteux, les tailleurs de route qui se font la cerise. Debout, compagnons de la foudre, faisons parler la poudre. Non, poudre à nous, pas la poudre qui pète, la plus jolie, la poudre des scampettes. Dans l'héroïsme, l'avenir est bouché, et de la gloire, refusons les délices. Brave par hasard, jamais par intérêt, peu de héros ont fait des bénéfices. Unissons-nous, tous les lâches mes frères, et crions fort notre droit d'exister. Sommes des moitiés mi-révolutionnaires, car nous faisons rarement un tour complet. Debout, compagnons de la foudre, faisons parler la poudre. Notre poudre à nous, pas la poudre qui pète, la plus jolie, la poudre des scampettes.
Clearstream, c'est un peu la banque des banques. Elle permet aux professionnels du secteur financier non seulement de s'échanger des valeurs, mais aussi de garantir des prêts et des emprunts. En principe, ces professionnels, ces clients, ce sont des banquiers. Clearstream a été créé par eux et pour eux dans les années 70. À son conseil d'administration siégeaient en 2001 les plus grandes banques de la planète. Clearstream est un outil indispensable, une caisse enregistreuse et une pompe à finances. Ceux qui l'utilisent et qui la dirigent, ce sont les banquiers. Ces mêmes banquiers, on les retrouve actionnaires ou créanciers des multinationales.
Tu me les montres là, les listings de Clearstream, donc qui sont sur ton ordinateur.
Alors, dans mon désordre organisé, est-ce que je vais les retrouver? Oui. Classeur Excel qui va s'ouvrir, ça prend un peu de temps parce qu'ils sont lourds. Et là, tu vas trouver plein de trucs dans les paradis fiscaux. Tu vois, là il y a un compte à Nassau, aux Bahamas. C'est quoi ce truc? Pictet International Limited.
De les îles Caïmans, là, Georgetown.
Ouais.
Nassau. Les Bermudes en dessous. Hamilton aux Bermudes.
Ouais.
Tu fais du tourisme, toi, avec les listings. Voilà. Visite vachement d'îles ensoleillées. De ta Lorraine, du Luxembourg, tu visites toutes les îles ensoleillées du Pacifique.
Tiens, Georgetown, ouais.
Les îles Caïmans.
Et regarde les noms. Tu vois, Flendeling Nominees. Nominees, c'est nom, mais ça veut dire Nominees, ça veut dire que c'est un prête-nom, ça. Enfin, il y en a 33 000 comme ça, hein, donc... des fois, les soirs, quand je me fais chier, je regardais ça, il y a presque une poésie. Regardez tout ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre. C'est quoi cette société à Nassau? C'est pas en allant à Nassau que tu auras les renseignements. C'est chez Clearstream que tu les as. C'est dans leurs ordinateurs. Mais eux sont protégés par l'État luxembourgeois. Qui vient me faire chier moi, quoi. Je peux fermer.
Il y a le chien de garde, c'est ça?
Hein?
Il y a le chien de garde pour les huissiers, ouais. Des boules.
Mais le chien, elle s'appelle Lily. Elle est très... elle n'aime pas les huissiers. Et la dernière fois, d'ailleurs, j'ai une fille de 13 ans. Elle était à la maison et le type lui a dit « Ouvre la porte, sinon ton père peut aller en prison. » Ils utilisent des méthodes comme ça, des fois. Parce qu'il fallait qu'ils remettent un acte et ça les fait chier de revenir. Et... J'y vais, hein. Dès que je rentre, je t'appelle.
Alors, pression, intimidation, un minuscule moustique, ce... Un minuscule David face à cet énorme Goliath, Denis Robert. Mais quand même, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il se penche sur Clearstream, qu'il prononce ce mot aussitôt, une avalanche de pression, de manœuvres d'intimidation, de poursuites et de procès. Mais il se pourrait bien que, au-delà d'enquêtes, d'analyses, de dénonciations, de dévoilements, après tout, il n'est pas le seul, au cours de ces années dernières, il y a quand même pas mal de choses qui ont été découvertes, et puis bon, l'autruche capitaliste, vous le savez, est capable de tout bouffer. Mais là, dans ce cas-là, il y a quelque chose visiblement qui passe de travers. Et ce qui passe de travers pourrait bien être que Denis Robert ait découvert, mis à jour, que la mondialisation financière est régulable. On présente les choses depuis longtemps comme quelque chose d'absolument incontrôlable, on ne peut plus rien faire, c'est plus fort que nous, il faut s'adapter, il faut se soumettre à cet ordre. Et il se pourrait bien que ce soit cela qui l'ait mis à jour et qui gêne tant cette hyperpuissance occulte ou qui cherche à ne pas faire parler d'elle, à ne pas se montrer au grand jour. Le point de vue de Dominique Plion, qui est économiste et président du Conseil scientifique d'attaque.
Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie, vous êtes économiste. Vous êtes par ailleurs président du Conseil scientifique d'attaque. Est-ce que pour un économiste, il y a eu, à travers les livres de Denis Robert, est-ce qu'il y a eu des points du fonctionnement de l'économie contemporaine qui ont été plus clairement mis en lumière ?
Oui, ce qu'a fait Denis Robert en particulier, c'est de montrer avec force et avec détail que Clearstream, c'est-à-dire une chambre de compensation internationale située au Luxembourg, qui est une société privée, avait un rôle extrêmement important et stratégique pour le fonctionnement des paradis fiscaux. Clearstream, c'est un écran, c'est un moyen de mettre de l'opacité pour pouvoir faire en toute tranquillité n'importe quelle opération, donc pouvoir détourner de l'argent, pouvoir faire de la fraude fiscale, pouvoir faire du blanchiment d'argent. Et évidemment, les gouvernements luxembourgeois, britanniques et les opérateurs privés sont opposés et donc sont furieux d'enquêtes comme celle de Denis Robert parce que ça montre au grand jour où est le problème.
L'une des surprises avec Clearstream, au-delà des dysfonctionnements, au-delà des scandales, c'est de découvrir que finalement cette finance internationale qui était représentée comme d'abord immatérielle, ne laissant pas de traces, n'ayant pas de mémoire, étant décentralisée, en fait pouvait s'avérer extrêmement centralisée, avec des traces, avec une mémoire, et donc contrôlable.
Exactement. Le système financier bancaire international est extrêmement centralisé. Aujourd'hui, une chambre de compensation est un endroit névralgique, une espèce d'aiguillage, en quelque sorte, vers lequel se concentre, transite une grande partie des flux financiers. Vous avez, je le disais, pour les marchés d'échange, qui est le plus grand des marchés, hein, c'est les marchés où les monnaies s'échangent les unes contre les autres. Il y a à peu près 10 banques, qui sont toutes anglo-saxonnes d'ailleurs, qui contrôlent 90% du marché. Et donc, il y a non pas une décentralisation, mais en fait une concentration des opérations financières entre les mains d'un petit nombre d'acteurs. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a la volonté politique, on sait très bien où aller pour détecter les flux, pour les repérer et pour les réglementer, voire pour les interdire.
Allô ? Non, on est sur l'autoroute, là, il y a plein de monde. T'as pas le siège auto, mais... Ouais, mais bon. J'ai oublié de le laisser à la maison. Là, j'ai un micro sous le nez, donc tout ce que je dis, c'est enregistré, je te signale. Ouais, bisous, à tout à l'heure.
Donc les héros ont aussi des problèmes de siège bébé.
C'est ça.
Donc là, on roule en Jaguar, entre Metz et le Luxembourg.
Non, mais la Jaguar, c'est un plan avec un copain, c'est une Jaguar d'occasion, mais que mon voisin Jean-Marie a retapé. C'est assez classe d'avoir une Jaguar et un comité de soutien.
Là, c'est une route que tu prends souvent pour aller au tribunal du Luxembourg
ou... Que je vais au tribunal, ça doit être la cinquième ou sixième fois que je vais à Luxembourg. J'étais entendu par une juge d'instruction déjà deux fois. J'étais convoqué une fois, donc. Mais c'est une route que j'ai prise souvent quand je faisais mon livre ou quand je faisais mon enquête, quoi. Mais là, on va à la cour d'appel, donc je ne suis jamais allé à la cour d'appel. On va innover. Et au Luxembourg, c'est pour moi, c'est le pays du guet-apens. Parce que quand tu vois les procédures qu'ils ont montées contre moi, c'est à se taper la tête par terre, quoi. Et ça, c'est une procédure au Luxembourg, j'en ai cinq ou six autres.
Et moi, quand j'ai un procès, ça m'arrive encore, quand j'ai un procès, ma mère, elle me fait me raser, elle me fait mettre une chemise blanche. Toi, là, t'es pas rasé, t'as une veste de jean noire. Ça va pas, ça?
Non, mais je vais pas.
Ma mère, elle serait pas contente. Hein.
Ma mère non plus, d'ailleurs. J'irai jamais me déguiser pour me faire bien voir devant un tribunal.
Il y a une fatwa sur le peigne aussi ou pas?
Pourquoi là ça?
Peut-être.
Mais je perds mes cheveux, j'en ai plus beaucoup. Enfin non, je les perds plus là, mais j'ai jamais eu, ne serait-ce que une seconde, l'idée que j'allais les abattre ou que Clearstream allait fermer ses portes. Quoi. Ils ont fait 18,7 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, en augmentation de 14%. Ils ont des filiales dans plus de 100 pays, dans 130 pays du monde. Ils viennent d'ouvrir des bureaux au Japon, en Arabie Saoudite. Ils sont richissimes. Ils viennent de prendre tout l'argent des Russes. Tout le fric des Russes sont rentrés dans Clearstream. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Ils ont une communication, c'est comme un rouleau compresseur. Et ça coûte des ronds, quoi, l'avocate. C'est 5000 euros.
T'as calculé combien ça te revenait depuis le début, toute cette histoire?
Ça, on doit être à, je sais pas, je vais dire 200 000 euros. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est ça la vraie censure. C'est une censure économique. Moi, j'hésite. L'autre jour, je sais plus, quelqu'un m'appelle faire une interview là-dessus. Je dis, en moi, je me dis, putain, si je dis que Clearstream, c'est un poumon de la finance parallèle, je peux le prouver. J'ai les listings avec les comptes ouverts dans les paradis fiscaux, etc. Mais ils vont attaquer en diffamation. S'ils attaquent en diffamation, et je gagne en première instance, je gagne en appel, ils se foutent en cassation. Donc, je suis à nouveau dans un circuit comme ça. Quoi.
Donc là, on franchit la douane, là, on passe au Luxembourg ici.
Ouais, je passe au Luxembourg. C'est un pays que j'aime pas. Hein.
Traverser le rond-point, deuxième sortie.
Ces gens-là savent très bien qu'ils fonctionnent, qu'ils ont fonctionné sur l'argent du crime, puisque toutes les mafias du monde et toutes les ont des comptes ouverts ici. Et c'est ça qui enrichit les gens, quoi. Tout le monde à Luxembourg a une femme, une sœur, un frère qui travaille dans une banque.
Voilà, une journée dans la vie de Denis Robert, c'était en juin 2007, un reportage de François Ruffin, qu'on vous rediffuse aujourd'hui parce qu'on va recevoir Denis Robert demain. Et on a voulu revenir en arrière parce que depuis, vous avez entendu au début comment il a jeté l'éponge en juin 2008 et comment, il y a quelques jours, la Cour de cassation lui a donné raison sur tout. Il est blanchi de tout et il est assez content. Il nous dira ça demain, mais on a voulu revenir en arrière pour que permettre de mesurer ce qu'est sa vie, ce qu'est son boulot, mais c'est pas tellement lui, c'est pas tellement le bonhomme qui nous intéresse, c'est le journalisme, ça peut être ça aussi.
Jean de Maillard, vous êtes magistrat, vous avez été juge d'instruction, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la criminalité, notamment la criminalité financière, avec Un monde sans loi. Vous avez, au moment de la publication de Révélations, vous avez été l'un des signataires avec Eva Joly, avec Renaud Van Ruydbeck pour la France, avec Bernard Bertossa, qui était procureur à Genève, avec un procureur également à Bruxelles. Vous avez été l'un des signataires d'une tribune, pour ainsi dire, de soutien à Denis Robert, d'une tribune qui disait qu'il y avait un certain nombre de vérités dans Révélations.
Oui, l'enquête de Denis Robert, qui était argumenté, qui s'appuyait sur des témoignages d'insiders, comme on dit, c'est-à-dire de personnes qui avaient non seulement travaillé au sein de Clearstream, mais qui avaient eu des responsabilités dans cet établissement financier de premier plan et qui dénonçaient elles-mêmes des mécanismes frauduleux qui auraient été mis en place par Clearstream, donner de la crédibilité, une crédibilité très importante à l'enquête de Denis Robert, qui n'a pas été entendue. Donc, le soutien qui avait été apporté par les magistrats à Denis Robert consistait à dire qu'il serait important de pouvoir poursuivre le travail qu'il avait fait en tant qu'investigateur. Ce travail devrait être poursuivi par des investigations publiques avec les moyens dont pouvaient disposer les puissances publiques, ce qui n'a pas été fait.
Vous demandiez en tout cas, un certain nombre de magistrats français, belges et suisses demandaient à ce qu'il y ait une enquête de lancer sur Clearstream, sur les chambres de compensation. À la place, les enquêtes qu'il va y avoir, les procès qu'il va y avoir, vont être à l'encontre du journaliste qui pose ces questions.
Oui, effectivement, c'est l'histoire, comme dans la chanson de Béart, du premier qui dit la vérité, qui doit être exécuté. Très vite, la justice luxembourgeoise a ouvert une information judiciaire, mais très vite il est apparu aussi, je dirais pour les professionnels qui connaissent un petit peu la musique, que en fait le but des autorités judiciaires luxembourgeoises était en réalité de sauver le soldat Clearstream en quelque sorte, parce que Clearstream est un élément essentiel de la richesse financière du Luxembourg et qu'il ne pouvait être question de déstabiliser l'industrie financière au Luxembourg.
Moi, je me demande si à la limite, Denis Robert n'est pas poursuivi plus, moins pour ses dénonciations que à la limite pour les solutions quasiment qu'il propose. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de très positif. Alors qu'on croyait qu'on avait une mondialisation financière qui était incontrôlable, où on avait des flux financiers qui étaient sans trace, où c'était complètement dématérialisé, donc on pensait que c'était impossible de contrôler quoi que ce soit. Là, il vient dire, regardez, entre Clearstream et Euroclear, entre deux chambres de compensation, on a l'essentiel des mouvements financiers internationaux de la planète. Ça se chiffre en dizaines, en centaines de milliards quotidiens. Donc là, si vous voulez agir, il y a ce point-là sur lequel vous pouvez agir. Et finalement, c'est comme si il fallait surtout pas qu'on discute de ça.
Je pense qu'on a voulu faire payer à Denis Robert sa ténacité et surtout peut-être que ça serve de leçon de façon à ce qu'il n'y ait jamais d'autre Denis Robert.
Donc Clearstream, ça doit être en face là. Je me paume un peu, moi. C'était au numéro 42.
Bah, Clearstream, c'est là.
Mais il y avait avant, il y avait au centre-ville, ils avaient un des plus beaux immeubles de Luxembourg. Et en grosses lettres, Clearstream, on le voyait la nuit, quoi. Puis évidemment, après mes bouquins, les lettres ont rapetissé, puis à un moment donné, l'enseigne a disparu et l'immeuble a été vendu. Et ils ont repris des immeubles de verre.
C'est à peu près la Défense, mais qui serait en dehors de la ville, quoi. C'est-à-dire des bâtiments de verre, un alignement de bâtiments de verre.
Des petites œuvres d'art, un peu comme ça. On dirait du Nikit Saint-Phal, tu sais, ce genre de... Mais c'est quand même assez déshumanisé, comme quoi.
Ah, c'est la zone industrielle, sauf que c'est une zone bancaire, quoi.
Ouais. Attends, je peux tourner, là? Putain, non, j'ai jamais le droit de tourner. Pour ces financiers qui vivent dans une espèce de vase clos coupé du monde. Et c'est là qu'est l'argent de tous les sièges derrière ces façades. C'est une espèce de coffre-fort planétaire. Comme l'argent est aujourd'hui électronique, tout est dans des disques durs d'ordinateur. Et puis tu croises des types comme ça, habillés en costard, enfin tu les vois. Qui...
Avec tout ce fric-là, ils n'ont pas réussi à se construire un beau monde, parce que ça pourrait être un beau monde à part, mais là, c'est pas...
Ouais, c'est tout.
Mais ça fait banlieue, quoi.
Ouais, ça fait banlieue. Là, il y a une galerie d'art. Tu vois, je veux dire, moi, je serais artiste, je serais à honte d'aller exposer là-dedans, quoi. Mais les Luxembourgeois ont plutôt des goûts de chiottes en matière d'art, mais ils ont plein de pognon. Donc, ils investissent dans des trucs. Je crois bien que c'est ça, Clearstream, non ? Je suis pas sûr.
Il y a un immeuble de 5-6 étages, là où on est à l'arrière, on aperçoit les gens dans une cafétéria. C'est la cafétéria du Deutsche Börse Group, c'est la cafétéria de Clearstream. T'es déjà allé manger à la cafète, c'est bon ?
Non, je suis jamais allé manger à la cafète.
Il y a 15 ans, Clearstream, tu connaissais ?
Ah non, j'avais aucune idée de tout ça. Je suis contacté par un jeune luxembourgeois qui s'appelle Marco Mart, qui était le fils d'un député, et qui va me présenter un type qui s'appelle Bacchus, et... Au contact de Bacchus, je me rends compte que, contrairement à tout ce que j'avais cru et à tout ce qu'on m'avait fait croire et à tout ce que me racontaient les juges, il y avait une traçabilité de l'argent. Il y avait donc une mémoire de l'argent. Et ça, c'était une idée complètement nouvelle. Et donc, je découvre ces espèces de boîtes qui s'appellent les chambres de compensation. J'entends parler de clearing, je ne savais pas ce que c'était, moi. Et Van Rimbeek et Eva Joly, ou tous ces juges qui aujourd'hui peuvent parler de ça, ils ne savaient pas ce que c'était non plus, quoi. D'abord, c'était un travail de comprendre, et de comprendre qu'il y avait une mémoire de l'argent, qu'il y avait une centralisation de l'information, que l'argent était complètement dématérialisé, mais qu'à un moment donné, la dématérialisation ne voulait pas dire l'absence de traces.
Qu'est-ce qui se passe derrière ces parois de verre là où on voit des gens qui travaillent, des gens qui s'amusent à la cafétéria? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation?
C'est un organisme financier qui fait le lien entre toutes les banques et tous les organismes financiers de la planète. Je comprends que c'est un nœud essentiel de cette finance internationale et surtout je comprends un truc, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Par exemple, quand il y a eu la crise en Argentine,
C'est Clearstream qui a communiqué au nom des banques de la planète. Si il y avait eu des outils indépendants de contrôle de Clearstream, on aurait pu prévenir la crise argentine. C'est dingue, mais c'est vrai.
Si jamais on voulait contrôler la finance internationale, là, il y a un point sur lequel il faudrait faire peser toutes les instances de contrôle.
Voilà. Les paradis fiscaux sont des leurs. Ça ne sert à rien d'aller à Jersey, d'aller à Guernsey, d'aller à Andorre, d'aller à Monaco, même d'aller à Caïman pour retrouver des traces d'argent. Toi, juge ou toi, journaliste, tu vas aller à Caïman, tu vas trouver des cacahuètes, tu ne trouveras jamais rien. Par contre, où est-ce que s'inscrit la propriété de cet argent? Eh bien, c'est dans les sociétés qui vendent. Et cette société, c'est Clearstream ou Euroclear.
C'est minable comme musique, c'est vrai. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour illustrer les paradis fiscaux. Cocotier, Lagon, un endroit où on s'emmerde profondément. Ce qui est frappant peut-être avec ces riches et ces enrichis qui souffrent de cette terrible pathologie du profit, c'est leur profond manque d'imagination, manque de culture, manque d'ambition. À part l'argent, gagner de l'argent, entasser de l'argent... C'est tout. Il n'y a rien au bout. Et cette galerie d'art là, que nos deux oeufs trouvent à Luxembourg, je suis sûr que c'est des toiles pitoyables. Mais ils s'en foutent, ceux qui achètent ces choses-là, parce que c'est uniquement pour spéculer et c'est encore pour faire du pognon. Tout ça, ce serait simplement amusant ou désolant tout au plus. Sauf qu'évidemment... ça n'est pas sans lien avec la marche du monde, les inégalités et les souffrances de certains. Pour en savoir plus, Denis Robert a travaillé avec Ernest Bocos, qui était l'ancien numéro 3 de Clearstream et qui nous parle.
Ernest Bocos, là où on vient de sortir du tribunal, ça a duré à peine un petit quart d'heure. Vous avez été numéro 3 de Clearstream, donc vous avez été un personnage important au Luxembourg, on peut dire.
Oui.
Si jamais il y a tant de procès qui sont mis en place par la justice luxembourgeoise, par Clearstream, par des banques, y compris des banques russes, c'est parce qu'on là on a touché à un point névralgique de la finance.
Ça, c'est certainement le cas. Et il faut dire que les tribunaux et la haute politique sont sous pression des milieux financiers. Les plus hauts milieux financiers et politiques, je dirais, du monde entier, pour que finalement on n'arrive pas à discuter sur le fond de l'affaire. Mais je peux vous assurer que sur le fond de l'affaire...
C'est quoi le fond de l'affaire pour vous? C'est qu'il y ait des comptes non publiés chez Clearstream, que Clearstream puisse servir de plaque tournante de la finance occulte?
Oui, on peut blanchir de l'argent sur un compte publié aussi bien que sur un compte non publié.
Et vous dites que Clearstream est l'une des plaques tournantes qui permet de blanchir cet argent?
Oui, c'est ce que j'ai en somme toujours dit. Bien qu'ils ne soient pas les blanchisseurs, les blanchisseurs restent les membres des systèmes qui utilisent le système pour blanchir.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont la machine. Ils ont la machine à blanchir, mais ce n'est pas eux qui blanchissent.
C'est ça.
C'est comme un pressing et chacun vient laver soi-même son argent.
C'est exact. C'est exact. Mon idée n'était pas de désigner Clearstream et les autres chambres de compensation transfrontalière comme des blanchisseurs, mais pour des gérants de machines à laver.
Et donc vous dites finalement s'il y avait un endroit où on pouvait commencer à contrôler la finance internationale, ça serait par ces chambres de compensation, d'abord par Clearstream par exemple.
Oui. Donc, ils insistent pour nous ridiculiser, Denis Robert et moi-même, pour nous pousser dans un rôle de farfelu et de je ne sais pas quoi encore.
Ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de comprendre comment tout cela fonctionne. C'est ce que fait Denis Robert depuis déjà... longtemps, ça lui coûte ce que vous entendez. Il a réalisé plusieurs films, dont Les Dissimulateurs, que je vous conseille, et L'affaire Clearstream, racontée à des ouvriers de Diwu. Ça étonnera pas trop les auditeurs de la basse judiciaire qui connaissent cette histoire de Diwu que nous avons racontée. Donc L'affaire Clearstream, racontée aux ouvriers de Diwu. C'est un film de Pascal Laurent, dans lequel on voit Régis Impel, que voici.
Oui, moi j'étais vice-président de la société, hein. J'étais responsable de l'informatique et de toute la production, quoi. J'avais quand même plus que la moitié des gens qui travaillaient à ce moment-là à CEDAL étaient sous mes ordres. Plus que la moitié.
Lui, physiquement, il prenait, il manipulait les programmes informatiques et il effaçait des transactions, mais des transactions sur des montants qui ont compté en dizaines, voire centaines de millions de dollars.
De dollars.
On parle en dollars.
C'est dans le temps, ce que mon papa, peut-être que je me gourre, mais c'est dans le temps où moi j'étais là, c'était entre 50 et 60 milliards de dollars par jour que ça tournait.
50 à 60 milliards de dollars par jour.
Jour que ça tournait.
C'est-à-dire que c'est une transaction qui avait existé, mais dont il fallait effacer les traces.
Les traces, oui. Avec deux instructions dans un programme, c'est bête. Read, write, fini. Hein. Pour nous, c'était de la routine. Je dis toujours pour nous, en informatique, c'était de la routine. Hein.
Mais ça vous paraissait louche, alors ?
Je m'étonnais, quoi.
Et pourquoi on vous demandait d'effacer ces transactions, alors ?
Ouais, pour ne pas retrouver de traces, tout ça vient.
Parce que ça peut venir de où ?
Là. Ça peut provenir de partout, quoi.
T'es un trafiquant de drogue, un trafiquant d'armes, t'es un fraudeur du fisc, t'as pas envie de... Voilà, c'est le moyen le plus absolu de ne jamais retrouver la trace de l'argent. On est dans le point aveugle de la finance internationale. Après, même le meilleur enquêteur de la Terre, le meilleur informaticien, il n'arrivera jamais à retrouver la trace de l'argent. T'as l'argent qui arrive et tu sais pas d'où elle vient.
Pour moi, il y a une volonté très précise des institutions de ne pas contrôler Clearstream. Il n'y a pas de contrôle. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des contrôles.
Les institutions, c'est les institutions financières internationales et les institutions luxembourgeoises.
Par la suite, le gouvernement est plus haut. Pour contrôler une firme pareille, il faut quand même qu'on contrôle ça. Et on ne contrôle pas.
Finalement, c'est ce nœud qu'on devrait le plus observer au niveau de la finance internationale.
C'est facile de contrôler, ce serait facile. Hein. Ce serait très facile de contrôler. Hein.
C'est lui qu'on devrait le plus contrôler, le plus observer, ouais. Et c'est celui qu'on contrôle et qu'on observe le moins.
Ouais. Et c'est facile de mettre des trucs de contrôle. C'est très facile de le faire.
C'est d'autant plus évident qu'il ne faut surtout pas qu'on en commence à en avoir l'idée. Alors.
Voilà. Ouais, mais le gros problème pour les gouvernements, pour tout le monde, c'est ces sommes énormes. Le marché de la drogue, le marché des armes. Comment faire rentrer cet argent-là à nouveau dans le circuit normal des affaires? C'est ça le gros défi.
Et donc comment on fait pour faire rentrer cet argent dans les circuits financiers normaux? L'argent de la drogue, l'argent des armes?
Et avec Clearstream, on utilisait ces chemins-là, il y a moyen de faire.
Et quand vous étiez à l'intérieur de Clearstream, vous étiez la seule personne à penser que ça servait à faire du blanchiment, que ça pouvait servir à faire du blanchiment, ou bien c'était un avis qui était partagé par quelques-uns de vos collègues?
Disons, tout le monde savait. Moi, j'étais l'exécutant, mais il y avait en haut de la production, il y avait des gens qui savaient mieux que moi. Hein.
Et les ordres, ils venaient directement de la direction?
C'est directement d'en haut. Hein. Pour moi, Clearstream est le meilleur moyen de blanchir.
Et quand vous dites ça aux banquiers, quand vous dites ça aux magistrats luxembourgeois, quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on vous répond?
J'ai dit aussi toujours, on est un très petit pays ici au Luxembourg, et ça j'avais dit aussi, à un moment donné, ici, c'est fini. Au Luxembourg, c'est tabou. Hein, ça, c'est...
Parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont liés à la banque, le pays vit sur la banque, donc finalement, si on met en cause Clearstream, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied.
Dans les deux pieds. Dans les deux pieds. Ça...
Les deux pieds, c'était François Ruffin avec Denis Robert. C'était en 2007 ce reportage. On recevra, si tout se passe bien, Denis Robert demain, parce que presque 4 ans après, il a gagné, je le disais en commençant, et vous le savez sans doute, la Cour de cassation l'a relaxé et blanchi. Dominique Plion, Jean Maillard, Ernest Bacquès, merci. Le dernier bouquin de Denis Robert, c'est une affaire personnelle qui a été publiée en 2008 chez Flammarion. Je vous parlerai un peu plus longuement la semaine prochaine de Futur Proche, le dernier bouquin de Noam Chomsky chez Lux. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Également là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, Coyen Nguyen et Franck Alirer. On réalisait cette émission assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 16h et 30 secondes sur France Inter. À demain, 15h pour la base. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.